Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Regards Croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Blain.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Alors comment ça va aujourd'hui?
Oh ça va, moins froid.
Moins froid.
Ça bon. Fait du bien. Et puis, bon, ben, surtout qu'on va parler un peu d'art, de musée.
Mais oui.
Oui, ça va bien.
On va parler. Alors, ben, d'abord, oui, en parlant d'art, justement, ton invité de la première demi-heure.
En première partie d'émission, on va recevoir Guy Kiyogo, qui est le directeur général et fondateur de l'Afro-musée Mouchalou Chaka et lauréat, l'un des lauréats d'ailleurs, de la 30e édition de la Table Blonde du mois de l'histoire des Noirs. Tout de suite après la première pièce musicale.
C'est bien. Et après, en deuxième partie, restez avec nous parce qu'on va avoir Isolde Lagacé, qui est la directrice générale de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts et de Montréal. Et avec elle, eh bien, nous allons analyser les enjeux de la pandémie et l'avènement de la webdiffusion pour la salle Bourgie. Alors, on part en musique avec...
Avec Sambo Akuzevi Orchestra, Shukri Vodka. En début d'émission, notre invité est déjà au téléphone avec nous. Il fait partie des lauréats de la 30e édition de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Il est le directeur général et fondateur de l'Afro-musée Moucha Galoussa et un galériste et collectionneur passionné d'art africain. Il est dans ce milieu depuis plus de 25 ans. Il est mieux placé pour nous parler de son parcours, son amour avec l'art, les arts en général et la culture en général, bien sûr.
Bien sûr.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Oui, bonjour Fulgence.
Oui, comment vas-tu?
Oui, très bien, merci.
Merci, merci d'avoir eu le temps d'être avec nous pour quelques minutes pour parler un peu. D'abord, ton trophée lauréat de la 30e édition du Mois de l'Histoire des Noirs, avant de passer à ta galerie, comment on se sent?
Mais écoute, je me sens à la fois fier, honoré et surtout reconnaissant.
Oui.
Non, je me sens bien.
Comment tu réagis quand tu as eu l'appel ou bien quand tu as reçu le courriel ou bien quand ils t'ont contacté? Comment tu te dis, mais qu'est-ce qui tombe sur moi là?
c'est exactement ça, je ne m'attendais pas du tout. Et donc, mettons que c'était une très belle surprise par les temps qui courent.
Oui, oui. Ah, Guy, oui. Ça fait tellement longtemps que je le connais. Je suis passé. Avant, il était quand je l'ai connu, il avait son musée sur Sherbrooke. C'est après qu'il a déménagé.
Oui, oui, oui.
Il a déménagé Sherbrooke, coin.
Jeanne Mance,
oui. C'est après qu'il a déménagé sur Ontario. Je pense que tu vas rester là pour longtemps ou bien tu comptes aller quelque part d'autre?
Bon, écoute.
Agrandir, je veux dire. Oui, oui, ça fait 10 ans quand même sur la rue Ontario.
Ça fait 6 ans, sur la rue Sherbrooke, ça fait peut-être 2010, donc 11 ans.
Oui.
Bon, c'est quand même depuis quelques années que je bourlingue dans le milieu. Donc
oui.
Mais ici, on y est pour quelques temps, mais à moins qu'on ait des surprises agréables ou désagréables, mais disons, on est là pour quelques temps.
C'est un très beau local, hein. C'est un très beau local, très bien situé d'ailleurs. Alors Guy, ton amour avec les arts, ça vient d'où? Est-ce qu'à la maison, papa faisait des collections d'art africain? Est-ce que, ou bien maman, ou bien dans la famille, il y a quelqu'un qui...
Dans la famille, oui, oui. Mais disons, j'ai une deuxième maman, c'est une de mes grandes sœurs qui m'a élevé.
Oui.
Et qui, elle aussi, est passionnée, collectionneur, et puis galériste depuis toujours. Donc, je peux dire que je suis presque né là-dedans, quoi.
OK.
Et donc c'est ça, bon, pour faire une histoire courte, c'est ça, ça vient vraiment de famille.
Ouais,
c'est... Et là, l'art est très présent dans ma famille aussi, frère musicien, bon, c'est l'art très très présent dans la famille.
Alors la grande sœur se dit, ah oui, je l'ai eu, il a pris ma passion aussi, le petit
frère. Oui, surtout qu'elle a pris sa retraite depuis un certain temps, donc moi je continue, donc c'est elle me conseille quand même depuis toujours d'ailleurs, donc c'est voilà, je peux dire que c'est de famille.
Oui, oui. Bon, ça fait plus de 25 ans que tu es impliqué ici dans le milieu culturel québécois. Alors, quelles sont les embûches que tu as eues quand tu t'es plongé là-dedans, quand tu as commencé?
Bon, les embûches, il y en a toujours. C'est au niveau d'abord de la reconnaissance.
Oui, surtout quand on parle d'art africain.
Oui, mais généralement, quand on parlait d'art africain ici, quand on voulait associer cet art-là, c'était associé à tout le monde sauf aux Africains.
Oui.
Et donc, il y a quelques collectionneurs, quelques marchands non-africains qui, eux, faisaient ce travail. Et quand quelqu'un comme moi embarque là-dedans, il y avait toujours... parfois c'était une certaine arrogance, une certaine condescendance. On disait que bon, les Africains n'étaient juste bons que pour opérer des petits bouis-bouis, des petites salles d'exposition un peu sombres, pas très bien organisées.
Okay.
Et bon, c'est comme j'essaie toujours de donner
le meilleur de toi.
De le meilleur de moi, et puis des conseils aussi aux plus jeunes, c'est que quand on fait quelque chose, on doit toujours essayer de le faire du mieux qu'on peut.
Oui.
Quel que soit le travail qu'on fait, on doit toujours faire le mieux qu'on peut. Et moi, j'ai quand même eu la chance que je n'ai jamais été seul. J'ai toujours eu des gens, ça peut être des amis, des clients, des partenaires, etc. J'ai toujours été chanceux.
Oui.
D'être toujours bien accompagné.
Oui, des gens de confiance.
Des gens de confiance autour de moi. Et voilà, donc c'est ça. Au début, les embûches, c'était plutôt au niveau de la reconnaissance.
De la reconnaissance, oui.
Oui. Et puis, bon, et puis évidemment, les embûches de tout homme d'affaires, ce sont donc les contraintes financières, etc. Ça ne manque pas dans le milieu des affaires.
Alors, oui. Justement, donc, à ce propos, j'aurais une question. si vous permettez. Oui. Je ne connais pas votre musée. Donc, l'Afromusée, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est représenté ?
Ah, OK. Alors, l'Afromusée, d'abord, c'est, vous pouvez bien déposer cette question. L'Afromusée, en fait, c'est la suite logique de l'espace Mouchagaloussa.
D'accord.
Donc, l'espace Mouchagaloussa, donc, c'est une galerie d'art africain qui représente les arts traditionnels de beaucoup de pays africains. On a des objets qui viennent de l'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest.
Peinture, sculpture, enfin, tout ça.
Sculpture, masque, objets traditionnels, des tissus anciens, d'accord, des... tout ce qui est artefacts, on a une belle collection d'armes blanches, donc des couteaux, on a une belle collection aussi des tissus traditionnels, donc des tissus faits de raffia, faits du coton vierge du Burkina, on a du quinté du Ghana, des pagnes baoulées, donc
c'est du tout quoi.
Donc c'est vraiment très très varié. On a des bronzes du Ghana, des bronzes à Caen, on a des bronzes du Cameroun, des bronzes du peuple Bamoun, on a des objets en bois, évidemment, beaucoup, des masques du Burkina, du Congo, on a un très très joli tambour de l'Angola, donc on est vraiment panafricaniste dans notre approche.
Vous êtes tout représentatif du continent africain, ouais. C'est ça?
Oui. Et avec ça, on organise aussi des expositions d'art contemporain des artistes vivants ici. Donc, les enfants de l'Afrique vivant ici, au Québec. Donc, c'est des peintres, des sculptures. Et avec ça, on rajoute la musique, l'humour, de la magie. Donc, tout ce qui est forme de créativité les enfants... Moi, j'appelle les enfants de l'Afrique, dont les afro-descendants, c'est le mot qui est très à la mode.
Oui. On va écouter, on va faire une petite pause musicale et puis on revient, on va aller dans les détails avec ça parce que c'est pas seulement une galerie, c'est aussi un centre culturel en même temps.
Ah bah oui.
Oui, c'est bien ça.
Voilà, on va aborder ça juste après la petite pause musicale. On va en musique avec Pierre Quanders et Clément Bazin. Compliqué.
Compliqué, compliqué, compliqué. C'est toujours compliqué, compliqué. Entre nous c'est compliqué, compliqué. Toi et moi c'est compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Entre nous c'est compliqué, compliqué. Tout est toujours compliqué, compliqué. Yolanda c'est compliqué. Aïe papa, l'embisaka pe mutema. Mbabuzo bate Eko kakapacite Yaya Oko me mangambwa pamba Oko bo mamoto pamba Essence polingo pas Tendresse bakisa awa SMS koganga pamba Zelanga na kozonga Zelanga na kozonga
Pierre Condé, c'est Clément Bazin compliqué. On a toujours notre invité. Ouais, Guy, tu connais Pierre Condé quand même?
Oui. Je l'aime beaucoup. Oui. Moi, le genre de jeunes que j'aime beaucoup, quoi, parce qu'ils sont très ouverts et puis ils sont très authentiques.
Il est originaire de la RDC lui aussi.
Oui. Il est originaire du Congo. Oui. Et il chantait en lingala d'ailleurs.
C'est ça. Je me suis dit, Guy va sourire un peu parce qu'il comprend toutes les paroles en lingala.
Alors, c'est très québécois comme ou très canadien, très nord-américain, oui, ce qu'il fait, mais en ayant toujours son authenticité africaine.
Son authenticité africaine qui reste collée à sa peau, bien sûr. Oui. Je connais personne. Voilà, et puis on va continuer avec toi. Ton histoire, ta galerie que tu as transformée aussi en lieu de rassemblement quelque part. Comme un centre culturel, les gens. Il y a des spectacles qui se passent là-bas, des soirées de contes, des soirées de poésie, même des soirées musicales. Comment t'es arrivé là?
Mais en fait, je dirais...
Il faut ranger les statues, hein?
Oui, mais la beauté, disons, de l'évolution de l'espace, c'est que c'est une évolution qui n'a pas été pensée par moi.
Oui.
C'est une évolution qui a été pensée de façon collective, c'est-à-dire que c'est le projet qui transformait l'espace.
Okay.
Et donc les gens ils venaient chaque fois, beaucoup de jeunes d'ailleurs, beaucoup m'appellent tonton Guy, ah tiens toi tonton Guy on pourrait faire ça, je dis ah pourquoi pas, et puis bon on essaie et puis ça marche, et donc c'est cet espace au fur et à mesure est devenu un centre culturel, est devenu quelque chose vraiment de collectif,
un lieu
et
de rencontre.
On se dirige vers le musée, parce qu'au départ c'est une entreprise qui était individuelle, qui m'appartenait. Mais comme tous les projets, une bonne partie des projets étaient faits par la communauté. C'est les communautés, surtout des jeunes, qui m'apportaient des idées. Et finalement, donc, on a décidé depuis plusieurs années, maintenant, de mettre sur pied un organisme de bienfaisance qui va chapeauter le tout. Donc, tranquillement, l'espace Mouchagaloussa est en train de devenir l'Afro-musée, qui ne sera plus une entreprise individuelle, mais une entreprise d'économie sociale collective, avec un bon conseil d'administration qui est déjà formé d'ailleurs, qui est dirigé par France Voltaire.
Oui.
Et voilà, bon, qui est dirigé par France Voltaire, mais ils sont six administrateurs vraiment très dévoués, qui croient vraiment à...
Notre France Voltaire nationale.
Ah oui. non, mais ça c'est un grand baobab du Québec.
Là, oui, France Voltaire nationale.
C'est notre grand baobab, François Voltaire.
Alors, avec tes 75 projets d'exposition déjà passés, de spectacles, de soirées littéraires et autres, puisque tu n'es plus seul maintenant, comment tu vois l'avenir?
L'avenir, je la vois quand même assez... moi, je suis un éternel optimiste. Hein,
oui.
Je le vois plutôt assez lumineux.
Oui.
Et assez lumineux, mais pour voir la lumière, il faut qu'il y ait l'obscurité, parce que la lumière,
c'est vrai,
on ne voit pas la lumière.
C'est vrai, tout à fait. Je suis bien d'accord.
Le présent m'a l'air très sombre, mais je vois la lumière dans l'avenir, je vois un avenir assez brillant. Et je le répète encore, j'ai toujours été très chanceux de connaître... des gens respectables et très généreux.
Chanceux, tant mieux alors.
Oh, non, c'est c'est sûr. Bon, on connaît d'autres aussi, mais moi je me concentre sur les positifs.
Oh, oui, c'est bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça prend moins d'énergie.
Très généreux, c'était dans le fait de déposer des projets, puis d'avoir aussi les éléments qu'on vient voir, qu'on vient visiter, ou bien c'est argent des donateurs.
C'est un peu tout. Bon, d'abord pour l'espace, Mouchagaloussa, c'est quand je dis généreux, c'est des gens qui apportent leur temps, leurs idées,
d'accord,
leur bonne énergie, les bons projets.
Ok.
Et ça, j'en ai eu pendant les 6 ans, bientôt 7 ans de l'existence d'espace Mouchagaloussa dans son emplacement actuel.
Oui.
Et au niveau du musée qui vient aussi, cet esprit-là continue. En fait, l'esprit d'espace Mouchagaloussa, qui est un très bel esprit positif, et en train vraiment de se diriger pour la création de ces musées qui est encore un projet beaucoup plus grand et plus ambitieux que l'espace.
Plus ambitieux, oui.
Oui, oui, oui. Et quand je parle de générosité, oui, on a eu déjà, on n'a même pas encore fait l'annonce, on a déjà eu quelques donateurs, on va dévoiler leur nom bientôt.
Et donateurs, ou des partenaires aussi, des gens qui veulent s'associer à vous, pas seulement des donateurs, mais des partenaires aussi.
Oui, des partenaires de qualité. Il y a d'abord le syndicat qui est le centre des documents, qui est dirigé par Franck Voltaire, justement un centre de documentation qui a plusieurs milliers de volumes. Sur l'histoire, c'est surtout sur les archives, sur la Caraïbe, mais sur aussi l'histoire afro-canadienne.
Oui.
On a le CELA qui a un cercle interuniversitaire qui comprend 4 universités. On est en train de parler avec le centre d'histoire orale de l'Université Concordia. Bon, au niveau corporatif, on a eu notre premier commanditaire, c'est Yulcom Technologies qui va nous soutenir et qui va nous tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Bon.
Ah, Yulcom Technologies, dont le jeune Burkinabé est à la tête de cette compagnie, ils viennent d'avoir d'ailleurs un gros contrat avec Desjardins.
Oui, c'est ça. Mais lui, c'est quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un de très discret, Jérôme. C'est qui travaille très, très fort. Oui, il vient d'avoir un très, très grand contrat qui va dans 65 pays, etc. Mais lui, Jérôme, depuis que je lui ai parlé de l'Afro Musée, il m'a dit, Guy, quand tu as besoin de moi, tu m'appelles. Je l'ai appelé, il a répondu tout de suite, sans hésiter. Et j'ai fait un petit pause d'ailleurs pour le remercier,
puis
l'honorer. Mm-hmm. Donc c'est ça, donc je ne suis vraiment pas... J'ai cette chance-là de toujours quand on parle de ce projet. Mais je pense aussi que le projet, il est porteur.
Oui.
Quand on en parle, et puis les gens, ils réagissent. Et puis ce projet-là, il ne vient pas de moi. C'est nos aînés qui parlaient déjà... de ça avant, on peut parler de Paul Brown, on peut parler de Dolores Sandoval. Moi, le premier plan d'affaires que j'ai vu sur un musée afro-canadien, c'est il y a 20 ans, c'était en 2001.
Oui.
Ça avait été écrit par Jean H. Philippe, qui est avocat haïtien. Donc, moi, peut-être, c'est le fait de pouvoir le commencer. Effectivement, c'est peut-être ça que je pourrais avoir peut-être un petit mérite. Mais c'est vraiment la continuité de nos aînés qu'on doit absolument saluer pour le mois d'Histoire de Noir d'ailleurs.
Bravo, merci beaucoup à toi Guy. On espère que voilà les prochaines années, malgré la présence du coronavirus qui nous dérange tous.
Il est juste à quelle adresse le musée, parce que moi je le connais pas encore.
Ouais, en fait, le c'est l'espace Mouchagalou, ça au 533 rue Ontario Est. Et nous préparons activement le lancement du musée qui sera fait au mois de juillet.
Oui.
Donc, on est dans une transition actuellement.
Transition, ça veut dire que le nom Moucha Galoucha va disparaître dans l'Afro-musée tout court.
D'accord.
Bon, c'est ça. Bon, c'est ça. Bon, mais beaucoup de gens ne veulent pas que le nom disparaisse. Mais là, c'est encore un autre débat.
OK.
Donc, qu'on doit faire dans les prochains jours.
Tu viendras nous en parler, Guy.
Non. Parce qu'il y avait un groupe qui s'est créé, les Amis de l'espace Moucha Galoucha. Et eux, ils ne veulent vraiment pas ça. Parce que c'est vrai qu'ils étaient là. C'est comme...
Okay.
Assister à l'accouchement. Et puis
merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Bravo encore une fois.
Merci. Hein,
pour ton...
À bientôt.
Et puis à bientôt. On espère te réentendre ici pour nous parler de ton cheminement.
Au revoir.
Parfait, merci bien.
Au revoir,
c'est notre cheminement. Là, le musée, là, c'est pas mon musée, c'est notre musée. Hein.
Merci, Guy. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
OK, merci de m'avoir reçu. C'est très apprécié.
Merci.
Merci à vous.
Give the more you have, the more you get, the more you have to give. The more you give, the more you get, the more you have, the more that you can give. I think we're always moving.
get, the more you have to give. The more you give, the more you get, the more you have, the more that you can give. The more you give, the more you have, the more you get, the more you have to give. The more you give, the more you get, the more you have, the more that you can give. The more you give,
et restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite.
Écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Thing is gone.
Alors, Isolde Lagacé, bonjour. Allô? D'accord. On va être... Isolde Lagacé, bonjour.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
Mais oui, je vous entends, on vous entend bien. Alors, Isolde Lagacé, bon ben, je vous ai déjà reçu ici dans une autre émission, mais vous êtes, on vous présente, donc vous êtes directrice générale artistique de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal et de la Fondation Arte Musica. Et on exactement. Peut dire, pour vous avoir déjà reçu, que les concerts de la salle Bourgie, ben, ça occupe tout votre temps. Que vous êtes une femme passionnée par votre métier et par l'envie de nous partager votre amour pour la musique et les arts. C'est bien ça?
Vous m'enlevez les mots de la bouche, Arlette. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire combien j'avais passé un bon moment avec vous l'année dernière.
Merci beaucoup.
Ça avait été très plaisant et c'était la belle époque où nos salles étaient ouvertes et que le public venait nous voir régulièrement, que nos salles étaient pleines.
Oui, et où on pouvait se voir nous aussi.
Mais oui, exactement.
Se recevoir. Alors, parlons un petit peu du programme qu'il va y avoir parce que justement, à cause de ce qui se passe en ce moment, donc on va parler des enjeux de la pandémie et puis de la web diffusion qui va se faire.
Voilà. Ben, vous comprenez que évidemment on vit tous la même chose en même temps. Alors quand les salles ont fermé en mars dernier, ça va faire
un an, presque un an.
C'est incroyable, hein, quand
ah
on
oui,
pense.
Incroyable.
Alors nous, sur le coup, ben, on était sous le choc comme tout le monde. Et honnêtement, je pensais que la semaine suivante on allait reprendre. Alors j'essayais juste de repousser un concert ou deux, me disant bon, on va annuler cette semaine, on refera ça la semaine prochaine.
Oui. Les semaines se sont allongées.
Oui, voilà, c'est ça. Et comme je m'étais engagée à reporter tous les concerts annulés et que j'en fais à peu près 110, 120 par année, vous pouvez vous imaginer le casse-tête que c'est devenu.
C'est sûr.
Mais finalement, on s'est rendu compte que si on voulait garder contact avec notre public, si on voulait garder la musique vivante, si on voulait que les musiciens continuent d'exercer leur art, qu'on n'avait pas le choix, qu'on devait tous se mettre au même diapason, sans faire de jeu de mots.
Tout à fait.
C'est ça, c'est-à-dire évidemment de présenter des concerts en web diffusion. Mais je vous dirais que ce n'est pas, c'est plus facilement dit que fait. Hein, c'est pas si simple que ça, parce que c'est, dans le fond, c'est vraiment une autre façon de présenter la musique et c'est une autre business. Moi, vraiment, mon expertise, c'est la musique de concert, c'est les arts vivants. C'est le contact sur scène avec les musiciens, avec le public. Alors, se mettre à faire ce genre d'activité où on a des caméramans, où on filme en avance, où on peut décider des moments de diffusion, où on joue, où les musiciens jouent dans une salle vide, alors c'est complètement différent comme approche, ne serait-ce que pour la sonorité de ce qu'on entend, parce qu'une salle pleine, ça absorbe le son différemment qu'une salle vide.
Oui, mais tout à fait, c'est vrai.
Oui, puis les gens aussi, ils ne se rendent pas compte, mais les musiciens réagissent beaucoup à la présence des gens. Dans le fond, le public alimente la communication. Et de jouer presque comme en studio, finalement, c'est quand même différent comme approche.
Mais tout à fait. Quand on vous parle et puis que vous êtes toute seule et que quelqu'un vous regarde, vous avez toute l'énergie de l'autre qui vient vers vous. Et c'est le cas pour les musiciens aussi.
C'est ça, exactement. Cela dit, aussitôt qu'ils se mettent à jouer, ils sont dans leur monde et puis ils sont dans le monde de la musique. Et puis évidemment, ils sont extrêmement heureux. Mais depuis Noël, je vous dirais que la première vraie expérience qu'on a faite, là, vraiment professionnelle, avec des équipes professionnelles, etc., ça a été Charlie Brown Christmas, qu'on fait à chaque année, qui est toujours un grand succès dans la salle. Et on a eu des dizaines de milliers de vues, honnêtement. On l'a offert en cadeau à notre public et les gens étaient très, très contents. Et puis on s'est dit, sur cette lancée, on va continuer à offrir nos concerts en webdiffusion. Alors on fait un.
Là, il y en a une dizaine de concerts en ligne. 10, enfin, il n'y en a pas une dizaine, il y en a 10 concerts en ligne qui vont. Non?
Ben, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y en a 3 ou 4 qui tournent, et puis il y en a un qui s'ajoute, puis là, il y en a un qui arrête, parce qu'on garde les concerts 2 semaines en ligne.
D'accord.
Alors finalement, ils s'accumulent, et puis à un moment donné, il peut en avoir 8, 5, 7. Donc, il y a une variété d'offres, effectivement. Pour ceux qui suivent les activités de la salle Bourgie, vous savez qu'on aime beaucoup offrir des genres différents,
oui,
un répertoire assez varié. Alors, j'ai essayé de balancer l'offre de jazz, de musique du monde, de musique ancienne, de musique de chambre, de récital. Donc, on s'assure qu'à peu près à tout moment, quelqu'un qui aime plus la musique de chambre aura un récital de musique de chambre, ou celui qui veut entendre la musique ancienne pourra. Alors, on essaie de couvrir notre éventail de répertoire avec, évidemment, toujours nos formidables musiciens d'ici. Je le mentionne parce que, finalement, la pandémie a fait en sorte, à cause des frontières fermées, à cause des problèmes de quarantaine, etc., a fait en sorte qu'on a dû se replier.
Eh bien oui, ne peuvent pas arriver les internationaux.
Les artistes
locaux,
quoi.
Mais par contre, je vous dirais que ça m'a fait chaud au cœur, parce que je me suis rappelé que l'an 1 de la salle Bourgie, on avait ouvert en septembre 2011, 100% de ma programmation était québécoise. Et là, on allait présenter notre 10e saison, et par la force des choses, je me suis retrouvée à faire une programmation 100% québécoise. Ce qui m'a bien plu, parce que honnêtement, ça prouve toujours le point que je dis, c'est que on a un bassin de musiciens québécois vraiment formidable.
Extraordinaire, oui. C'est vrai.
Dans tous les genres.
C'est vrai, il faut se le reconnaître. Moi, on va écouter deux extraits que vous nous avez envoyés, puis on en parlera après. Mais je me suis toujours posé la question de savoir, la salle Bourgie, qui est un endroit absolument magnifique, avec une résonance extraordinaire, de savoir comment vous avez dû retravailler, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, pour que le son paraisse aussi beau que quand on est tous là dans la pièce.
Mm-hmm. Alors,
on en parle dans un instant, on écoute. On va s'écouter d'abord les deux petits morceaux, et puis après on va en parler. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs les morceaux que nous avons envoyés? C'est Carina Gauvin, Luc Beauséjour.
C'est ça, Carina Gauvin, une de nos plus grandes chanteuses, une de nos plus grandes voix. Ça va bien avec vue et voix, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Et elle fait une grande carrière à l'international, mais elle habite à Montréal. Et puis, voilà, elle était trop contente de venir nous rejoindre à la salle Bourgie pour jouer avec son collègue Luc Beauséjour. Alors, on écoute et puis on
parle. Allez, on écoute, puis on en parle tout de suite après. Alors, on part avec les deux extraits que vous nous avez envoyés.
Merci.
Yeah.
Alors Isolde, après avoir entendu ça, j'ai envie de lire ce que vous dites vous-même, ce que vous avez dit que j'ai pris en ces temps de confinement. Nous constatons que les arts, et notamment la musique, jouent un rôle irremplaçable dans l'épanouissement des êtres humains et sont un pilier dont la société ne peut se passer. Et là, j'ai envie de vous dire oui, oui vraiment.
Mais oui. Alors on est tellement touchée par les arts. Dans le fond, bon, moi, évidemment, je suis musicienne, alors la musique, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Mais vous savez, que ce soit le théâtre, je regardais la pièce de Lepage à oui. Québec cette fin de semaine, que ce soit la danse qui me touche tellement. Tous les arts d'interprétation, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de, qui devrait faire partie de notre quotidien. Et là, voyez-vous, ce qu'on vient d'entendre, ce sont deux courtes pièces que Jean-Sébastien Bach avait écrit pour sa femme Anna Magdalena, qui était chanteuse, et il lui avait offert ce petit livre de musique, et c'était la musique de l'intimité, la musique de la famille, la musique à faire ensemble avec ses fils, et plusieurs pièces ont été retranscrites par les fils et les filles de Bach. On sait que Bach a eu de nombreux enfants et plusieurs sont devenus compositeurs, et donc il notait de charmantes pièces qu'ils pouvaient faire ensemble. Là, c'était une chanteuse, un clavecin, un violoncelle, alors ça c'était très bien. Donc, c'était de la musique de la famille, de l'intimité. Et c'est la base même de l'échange en musique, c'est de faire de la musique. Parce qu'en écouter, évidemment, c'est formidable. Et en faire, c'est formidable.
Oui, c'est encore mieux. Hein, c'est encore mieux quand c'est familial. C'est puis c'est bien de savoir l'histoire derrière le morceau qu'on écoute.
Voilà.
Moi, j'aime
alors,
ça.
C'est un recueil de toutes petites pièces. Évidemment, c'est pas le grand Bach des orchestrales et des grandes pièces d'orgue. C'est le Bach de l'intimité. C'était un homme qui avait beaucoup d'humour et qui était un très bon vivant. On pense que Bach était austère et souvent on pense que c'est triste ou c'est grandiose, mais pas du tout. C'était un homme, on sait qu'il buvait de la bière, qu'il allait au café. Écoutez, il y a eu 21 enfants. Alors, pour avoir 21 enfants, on est certainement un bon vivant.
Oui, oui. Il faut avoir voilà. aussi plusieurs femmes parce que la pauvre, 21, ça ferait un peu beaucoup.
Vous savez mais tout sur la vie
ah
de
oui.
Bach.
Elle est intarissable là-dessus, sur une grande connaissance musicale.
Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce côté de Bach. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est un bon vivant, comme elle le dit, Isolde. C'est vraiment...
Oui, allez-y.
J'aime bien qu'on remette les compositeurs dans leur milieu, qu'on a un portrait vivant d'eux, pas des idées préconçues.
Plus proche de nous.
C'est sûr que c'est des gens qui ont vécu il y a des centaines d'années, alors on ne sait pas exactement comment ils vivaient, évidemment. Oui. Bon, Bach est mort en 1750, alors ça date. Mais quand même, ce sont des gens qui avaient une vie de tous les jours très remplie. Oui. Très occupés, qui leur apportaient beaucoup, très bénéfiques. Bon, des gens, évidemment, comme Bach, ce sont des génies. On s'entend c'est des gens exceptionnels. Mais alors, voilà, je suis heureuse qu'on ait entendu Carina avec Luc Beauséjour. Et c'est le premier disque qu'ils ont fait ensemble pour Anna Lecta. Il y a des dizaines d'années, ils ont repris ce programme pour le faire à la salle Bourgie, parce que, justement, on voulait des petites formations. On ne peut pas mettre les pleins
orchestres. Les grosses formations.
D'ailleurs,
sur la liste, alors, Fulgence, c'est une question pour vous, mais juste avant, on va signaler qu'il y a 10 concerts en ligne qui sont du 12 février au 2 avril 2021.
Oui. Alors nous, on a présenté notre programmation jusqu'au 2 avril, mais ça va continuer après. C'est juste que là, on a décidé de présenter le mois de février-mars, jusqu'à la semaine sainte. La première semaine d'avril, c'est la semaine de Pâques. Puis là, on va avoir de la musique religieuse, des cantates.
Mais je vous conseille d'aller voir ce qu'il y a à Salle Bourgie, parce que c'est vraiment des musiques complètement différentes. Il y a vraiment de tout, hein.
Ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a des concerts, bien sûr, l'activité principale qu'on fait, mais on a mis cette année en ligne une série de concerts-conférences.
Oui, j'ai vu ça.
Oui, alors l'idée, c'est... Parce que les conférences, ça peut être un peu, je ne veux pas dire austère pour ne pas avoir des idées préconçues, mais des gens qui parlent.
Bon. Il va y avoir les Ondes Martenot. Nous, on avait reçu quelqu'un qui nous avait parlé des Ondes Martenot et qui était venu jouer. C'est super intéressant.
Ah, c'est très particulier comme
instrument. Oui, c'est très particulier.
Ouais, l'idée des concerts-conférences, c'est d'expliquer, mais de jouer aussi. Alors, il y a une partie concert, parce que quand on illustre par un disque, c'est beaucoup moins intéressant. Je trouve que c'est plus vivant si les musiciens sont là.
Oui,
alors,
ben oui.
Il y a la partie conférence, mais il y a la partie concert. Alors, il y a un côté éducatif, mais il y a un côté ludique aussi. Puis les ondes Martenot, je voulais dans cette série-là qu'on puisse découvrir ou bien des répertoires, ou bien des styles, ou bien des instruments.
Oui, et puis l'histoire de cet instrument est assez exceptionnelle, donc n'en dites pas plus, il faudra assister au concert-conférence.
Oui, très rare, avec des sonorités très modernes, un peu, on dirait presque que ça vient d'une autre planète.
Ah oui. D'ailleurs, on dit de la personne qui joue qu'elle est une ondiste. Je vais laisser Fulgence vous poser sa question.
Non, pas question, c'est juste quelque chose que je dois apporter. Concernant, d'accord, bon, commencer avec les artistes du Québec et terminer avec les affaires, quelque chose de grandiose comme ça actuellement avec les artistes du Québec. Mais je pense bien que ça va tisser les liens aussi avec les artistes locaux, hein, si je ne me trompe pas. Et dans l'avenir, si vous avez des difficultés, si la pandémie ne s'arrête pas, à faire venir des artistes internationaux.
On croise les doigts.
Ah oui, non, je ne suis pas si pessimiste que ça, mais on ne sait jamais avec ce vieux monstre.
Tout a une fin, on va arriver au bout de ce...
On espère. C'est-à-dire que si ça ne finit pas maintenant, un semblant de normalité, vous avez votre bassin d'artistes locaux qui pourront toujours vous dépanner, quoi.
Ben oui, bien sûr.
Puis ça donne de l'emploi en même temps, quoi, des cachets.
C'est ça, je veux dire, un artiste devient artiste parce qu'il a ce besoin de communiquer, il devient artiste, il est pigé dans un chapeau, j'ai le choix entre je ne sais pas quoi et quoi. Je veux dire, un artiste, il devient artiste par la force des choses, par une espèce d'appel intérieur, là, c'est ça qui fait qu'il se retrouve. Alors, c'est sûr que quand même, il y a un côté très triste à une situation où on coupe l'herbe sous le pied à des centaines de gens qui sont tellement doués. Je fais des petites présentations, des concerts, là, quand on les filme, et puis j'étais avec Didem Bachar, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une musicienne montréalaise, mais d'origine turque.
Ah oui, d'accord.
Ça me dit quelque chose, le nom.
Mais elle a joué, là, récemment, non?
Oui, justement,
voilà.
Son concert est encore en ligne, il est d'accord. Encore quelques jours.
C'est ça.
Et j'étais ravie de la rencontrer en personne, évidemment, parce que souvent, on connaît les noms des gens ou on a vu leur visage sur des annonces ou des affiches, mais on les a pas rencontrés en personne. Et ça rajoute beaucoup à la dimension de partage de la musique de cette culture, par exemple. Alors, elle est turque d'origine, mais elle joue avec des musiciens québécois issus de la culture québécoise. Alors, ça fait une espèce de mélange qui finalement aux oreilles extrêmement qui nous apporte beaucoup, quoi.
Et il faut pas l'oublier, la musique, c'est un langage universel.
Oui.
Ben absolument.
Et puis c'est pas Isolde qui va nous dire le contraire.
Voilà.
Au contraire, elle est plongée complètement dedans. Isolde, on arrive malheureusement dans les dernières minutes de cette entrevue. Alors,
oui.
Je sais aussi que dans les concerts-conférences, ben on a parlé de ça tout à l'heure, mais il va y avoir aussi le flamenco, enfin il y a plein de choses, allez voir, parce que c'est super intéressant.
Et puis les musiciens de l'Orchestre Métropolitain, pour ceux qui veulent quelque chose de plus classique, avec Stéphane Pétrou, notre fantastique violoncelliste qui est très, très aimé, très connu, et puis un jeune violoniste aussi, parce que j'aime beaucoup encourager les jeunes. Vous savez, ça, c'est une autre chose importante. Les étoiles montantes, c'est des gens qui ont travaillé énormément fort leur art, et puis il faut leur donner une tribune. Alors, Blake Pouliot, le violoniste, et Stéphane Pétrou sont avec les solistes de l'Orchestre Métropolitain, puis ils font un super concert avec Schubert, entre autres, qui lui aussi faisait beaucoup de musique. Tantôt, je parlais de Bach et puis la musique familiale, mais Schubert aussi, il aimait beaucoup faire des soirées entre amis ou avec son père ou son frère. Alors, cette musique de chambre est
plus romantique.
Oui, c'est romantique parce que c'est le 19e siècle, mais c'est issu de ce partage presque familial ou amical que les gens... Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas l'Internet au 19e siècle. Alors, s'ils voulaient transposer, faire la musique, il fallait qu'ils la fassent entre eux, chez eux, dans leur salon. Ou c'est pour ça qu'on appelle ça de la musique de chambre, parce que c'est à la maison, finalement.
C'est vrai, c'est ça. C'est ça aussi.
Le nom vient de là, effectivement.
Mais oui. Mm-hmm. Eh bien, Isolde, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vous avoir être toujours la femme passionnée que vous êtes. Vous m'avez donné le... Quand on s'était rencontrés, alors je suis déjà allée à la salle écouter des spectacles, mais vous m'aviez donné le goût de le comprendre autrement et de voir la petite histoire derrière l'histoire de la musique. Voilà.
Donc, je vous
dois ça, d'avoir fait mes recherches.
Et puis vraiment, comme la salle est si belle, elle sonne si bien,
elle est magnifique.
Elle est si confortable,
Et elle est Allez-y. Au musée, alors ça permet de non seulement profiter des concerts, mais aussi des tableaux, parce que là, le musée rouvre demain. Hein.
Oui, on l'a annoncé. On l'a annoncé. Alors, tous au musée, tous à la salle Bourgie, dès qu'on pourra.
Oui.
En attendant,
la
salle Bourgie en ligne et dans votre foyer. Isolde Lagacé, mille merci. Et puis, j'espère à une prochaine fois pour annoncer cette fois des concerts en salle. À bientôt.
Absolument. Merci, à bientôt et bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Pour aller prendre de l'air, je me ramasse en bobette en avant du frigidaire. Bébé, TDA, TDAH. Bébé, TDA, TDAH. Je suis parti pour Jonquière, je me ramasse à Trois-Rivières. Puis mon permis de conduire est expiré depuis hier. Que ma blonde part dans le vide.
Alors, on vient d'entendre Rick et les bons moments qui nous chantaient TDAH. Et voilà, donc, merci beaucoup à Isolde Lagacé parce qu'elle nous a passionnés comme elle a l'habitude de le faire. Et puis...
Merci à Guy, Moucha Galoucha, qui nous a parlé de l'Afro-Musée, bien sûr, 30e, un des lauréats de 30e édition de la Table ronde des mois de l'Histoire.
Qui me donne envie d'aller le visiter.
Ah ouais, oui, c'est non loin d'ici, sur Ontario, juste en bas là.
Tu voulais aussi qu'on parle des reprises de l'émission ?
Oui, bien sûr, tout de suite, c'est parti, rapidement, c'est tous les mardis, mercredi, du mardi au samedi, oui, bien sûr, à 5h du matin.
À 5h du matin.
Pour le couche-tard et les lève-tôt.
Voilà, couche-tard, lève-tôt, à savoir. Moi, je serais un petit peu partisane de joindre les couche-tard, mais bon, chacun fait comme il veut. Allez, merci à tous d'avoir été là, toutes et à tous d'avoir
bonne
été là. Merci Maurice Bolduc pour les musiques.
Merci Maurice. Et puis,
merci Fulgence.
Attends, on se voit demain. Oui.
On se voit demain, même heure, même endroit.
Ouais.
Au revoir.
Que vous soyez...